d'Afrique du Sud et des United Kingdom. Il faut peut-être dire que le virus a cette particularité de muter un peu le virus de la grippe. Comme vous savez, on se vaccine chaque année de la grippe pour une raison qui est simple, parce qu'entre l'année qui suit, le virus initial mute parce que au niveau de la cellule hôte, quand il essaie de faire former des nouveaux virions, il se transforme et son matériel génétique se transforme. C'est ça qu'on appelle des mutations, qui sont généralement des micro-mutations et qui ne donne pas de nouveaux symptômes en tant que tel, ni n'augmente pas généralement la virulence de la maladie pour ce qui est de la grippe, par exemple. Donc, quand j'ai fini d'expliquer ça, il faut maintenant dire les variantes des United Kingdom et d'Afrique du Sud sont un peu spéciales parce que elles viennent ajouter quelque chose à la maladie. Celle de United Kingdom augmente la transmissibilité jusqu'à 70% et également le nombre de décès. Cette variante donne une forme de la maladie beaucoup plus virulente que celle que nous avons, que les variantes qui existent déjà, et c'est l'occasion de dire que il y a plusieurs variantes qui existent déjà du COVID-19, mais qui sont des micro-mutations. Pas aussi large que celle des UK, qui représente quand même 29 mutations de protéines au niveau du génome viral, par rapport au génome viral initial. Donc, maintenant, celle de l'Afrique du Sud, elle augmente la transmissibilité, mais on n'a pas encore prouvé qu'elle augmenterait le nombre de décès comme celle des United Kingdom. C'est un peu la différence que je ferais globalement entre les deux variantes. Donc, quand j'ai fini de set up the stage comme ça, comment ça complique les plans de riposte au niveau global? Déjà, quand il y a cette nouvelle variante de l'Europe, au United Kingdom, ça augmente avec le nombre de cas, et c'est ce qu'on a appelé probablement la troisième vague qui est causée par cette nouvelle variante, et donc les pays sont maintenant obligés de se reconfiner pour ce qui est des UK et d'avoir des étapes qu'ils n'avaient pas prévues, c'est-à-dire refermer les frontières, restrictions de voyage à nouveau et être beaucoup plus drastique dans les mesures de prévention, parce que comme j'ai dit précédemment, cette nouvelle variante n'augmente pas seulement la transmission, mais également le nombre de décès. Donc au niveau de l'Europe aujourd'hui, ils sont en train de développer deux nouvelles, une nouvelle mesure et renforcer les restrictions au niveau des entrées et des sorties du territoire. La nouvelle mesure, c'est le passeport vaccinal que vous avez, le passeport sanitaire que vous avez sûrement entendu parler la semaine dernière. Le Parlement européen était réuni pour délibérer là-dessus. Est-ce qu'on va mettre en place ce qu'on appelle le passeport sanitaire pour que seuls ceux qui sont vaccinés peuvent circuler librement dans le territoire européen et au niveau des United Kingdom? Donc, globalement, ça... Globalement, pour finir, ça change les plans et ça augmente les coûts. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas prévu une nouvelle vague due à une nouvelle variante. On avait juste prévu un vaccin. Et comme si vous vous rappelez très bien, on se disait que le vaccin viendrait nous aider avec la prévention primaire et aussi réduire...
On pourra revenir sur cette question des vaccins, justement. Mais je voulais demander au docteur Ndiaye, c'est vrai qu'on a constaté une hausse importante des cas et des décès par rapport à la première vague. Si on prend l'exemple du Sénégal, comment est-ce que cela s'explique? Est-ce que c'est lié à ces variants ou il y a d'autres facteurs?
Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Non, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire que l'augmentation des cas que nous constatons dans cette deuxième vague et le nombre de décès qui suit serait dû à cette variante, parce que jusqu'à présent, dans nos laboratoires, les recherches phylogénétiques, les séquençages qui sont en cours ne montrent pas que ces variantes dont on parle, surtout le variant de la Grande-Bretagne et de l'Afrique du Sud sont présents sur notre sol. Donc, on ne peut pas dire que c'est cela qui explique le nombre élevé de cas et de décès au cours de cette deuxième vague.
Et qu'est-ce qui est à l'origine, alors, selon vous?
En fait, si vous vous souvenez, durant la première vague, les mesures de santé publique, comme on les appelle, qui étaient prises, étaient beaucoup plus nombreuses du point de vue du nombre. Et ils étaient aussi beaucoup plus aussi drastiques. Mais vous savez tous que ces mesures aussi ont eu un impact négatif dans la vie sociale, tout court, la vie économique. Et vous voyez nettement que ces mesures ont été assouplies. Et à l'heure actuelle, il n'y a que le couvre-feu ici au Sénégal qui est en cours et encore aussi pour seulement deux régions, Dakar et Thiès. Ce couvre-feu est de 21h jusqu'à 5h du matin. Les mesures qui étaient prises durant la première vague ne sont pas toutes appliquées actuellement. Cela aussi ne conduit pas à ralentir le nombre de contaminations par jour.
Est-ce qu'en Afrique, l'infrastructure est là pour dérouler cette campagne de vaccination? Qu'est-ce que les pays africains devraient faire différemment en voyant un peu ce qui se passe en Occident?
Bon, il faut dire que à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les dettes de l'OMS, sans désolé. Vous savez, la théorie pour la vaccination qu'on vient de public, qui ne doit pas obéir au marché, au commerce mondial habituel, ne date pas d'aujourd'hui. Mais on se rend compte que les grandes firmes pharmaceutiques privilégient des contacts directs avec les pays, et les pays les plus riches, pour le moment, raflent la mise. Les pays africains et d'autres pays se sont regroupés au sein de l'initiative COVAX pour pouvoir accéder à ces vaccins. Pour le moment, les vaccins qui sont homologués, c'est surtout les vaccins de Pfizer, Moderna, et sur le pipeline, il y a AstraZeneca. Mais les deux premiers vaccins, compte tenu de leurs critères de conservation, nous n'avons pas encore dans nos pays cette logistique pour de la chaîne du froid. Parce que c'est des vaccins qui doivent se conserver avec des températures négatives qui tournent autour de moins de 170 degrés. Mais il y a le troisième vaccin qui pourrait peut-être mieux, en tout cas s'adapter aux dispositifs que nous avons sur place. Mais en tout cas, de cause, tous les pays sont en train de se préparer avec des différents scénarios pour pouvoir accéder au premier temps avec l'initiative COVAX, qui ne garantit pas un accès en quantité suffisante, juste autour de 20% de la population. À l'heure actuelle, les pays se préparent et sont appuyés par les partenaires techniques et financiers. Et je pense qu'en tête de file, il y a l'OMS et aussi il y a l'UNICEF. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à l'heure actuelle, les pays africains ne disposent pas de vaccins à l'heure actuelle. Donc, bien entendu, il y a d'autres vaccins qui sont aussi des candidats que les pays peuvent, de manière bilatérale, négocier avec les fabricants de ces pays. Il y a le vaccin noir, il y a le vaccin du russe aussi qui est candidat, et même des vaccins indiens aussi qui sont candidats. Mais ce qu'on constate à l'heure où je vous parle, c'est que pratiquement aucun pays africain n'a encore commencé la vaccination dans son territoire.
D'accord. En tout cas, on va lire quelques commentaires Facebook de nos téléspectateurs, les téléspectateurs de VOA Afrique. On a Abdourahman Koulibaly, il est en Guinée. Il écrit « Il nous faut un global leadership challenge pour vaincre le coronavirus. Ensemble contre le coronavirus, nous vaincrons, façonnons notre avenir ensemble pour un développement durable de notre planète. » Et puis Asmaïlou, il est à Lomé, au Togo. Il dit « J'ai peur car est-ce que le vaccin pour mon continent ne sera pas différent de celui des autres continents? Est-ce que ce n'est pas une arme pour en finir avec le peuple africain ?» Et je peux vous garantir que ce sont là parmi les commentaires les plus modérés, donc sur la perception de ce vaccin en tout cas. Comment est-ce qu'il faut dissiper ces inquiétudes, ces doutes qui sont véhiculés dans ces commentaires Facebook et sur les réseaux sociaux de façon générale, qui sont bien ancrés dans la population? Docteur Mbaga.
Oui, c'est ce que j'ai anticipé tout à l'heure. Dans la population, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux WhatsApp, je pense que, comme le collègue l'a dit tout à l'heure du côté de Dakar, l'Afrique a encore une chance de préparer sa population à l'avenue de ce vaccin parce que, effectivement, comme il l'a si bien dit, les pays riches raflent la mise, c'est la loi du marché, la demande est énorme et donc le peu qu'il y a là sont ceux qui peuvent se permettre d'avoir. Et malheureusement, l'Afrique ne peut pas se permettre d'avoir aujourd'hui par leur propre gouvernement, mais les partenaires techniques, je pense que l'OMS et le système des Nations Unies en général est en train de se battre pour l'avoir. Maintenant, comment l'Afrique doit se préparer? Le seul problème que l'Afrique aura, même quand il y aura ces vaccins, c'est les mentalités. Il faut absolument préparer les gens, les éduquer au bien fondé du vaccin. Et l'éducation commence par les professionnels de la santé. Le vaccin COVID s'inscrira où dans le système de santé? Est-ce que ce sera un vaccin obligatoire? Il faut que l'Afrique puisse décider là-dessus ou alors ce sera un vaccin facultatif. Quand il est obligatoire, où est-ce qu'on l'administre? Le consentement éclairé, il faudrait que les professionnels de la santé et au niveau des ministères, des policies, des lois, cadre soit voté au niveau de chaque pays ou de chaque zone pour soutenir les actions sur le terrain des professionnels de la santé. Deuxièmement, il faut les éduquer à comment communiquer avec la population massivement pour qu'ils acceptent ces vaccins parce que ils sont très chers. Si les partenaires d'appui au développement réussissent à les avoir, ce serait dommage que, à cause des désinformations, que la population africaine ne puisse pas l'avoir. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui serait le premier commentaire, il faut nous unir et faire en sorte que nous tous nous soyons
combattre ensemble. Ouais.
Nous combattions ensemble le COVID et une petite partie de ce deuxième commentaire qui dit est-ce que le vaccin ne serait pas une manière de décimer l'Afrique. Je veux dire, pour nous mettre ensemble, en fait, l'Afrique doit commencer à se réveiller. Vous allez voir, Pfizer a été pionnier peut-être dans les vaccins, mais les Européens sont en train de s'activer et l'Afrique est toujours, la Chine a bien sûr aussi son network et maintenant l'Asie au niveau de l'Inde et tout. Mais l'Afrique est absente. L'Afrique, pour être sûre que les gens ne sont pas en train de conspirer justement pour tuer la population africaine, doit être beaucoup plus proactive en termes de recherche, la recherche scientifique pour aussi participer à ces initiatives-là et ça permettrait de donner plus d'assurance aux populations. Imaginez-vous s'il y avait un groupe africain, un groupe pharmaceutique ou alors un consortium de professionnels africains qui avaient participé à ces recherches-là au niveau de Pfizer et tout, ils auraient contribué à rassurer la population africaine que ce n'est pas ce dont vous parlez, c'est-à-dire décimer. Nous avons participé, nous sommes là et nous avons mis nos inputs pour ça. Tant que l'Afrique restera un spectateur ou alors l'aider, comme le collègue l'a dit, aidé par les partenaires financiers, l'OMS, il sera en fait obligé d'accepter ce qu'on lui donne.
D'accord. Merci beaucoup. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Alors que plusieurs pays africains ont annoncé des plans de vaccination contre le COVID-19 en Afrique du Sud, les experts de la santé ont exprimé des doutes sur l'objectif du gouvernement qui prévoit de vacciner 40 millions de personnes cette année. Ils expliquent que ce chiffre doit être revu à la baisse compte tenu de la sévérité de la pandémie dans le pays et des ressources disponibles, suivant les explications de Dilidico.
Les autorités sud-africaines disent vouloir vacciner 40 millions de personnes cette année.
Je ne pense pas que cet objectif sera atteint.
Plusieurs experts de la santé, comme Jeremy Neal, chef de la division des maladies infectieuses à l'hôpital Ellen Joseph à Johannesburg, ont des doutes et exhortent le gouvernement à fournir un plan.
Je pense simplement que lorsque vous regardez les données chiffrées, vous déterminez à quelle fréquence vous vaccinez les gens et combien de doses vous devez donner par jour, que vous prenez en compte les énormes défis d'infrastructure, les défis logistiques et le fait que des pays avec davantage de ressources peinent à vacciner leur population, vous voyez que cet objectif est difficile à atteindre.
L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus touché par la pandémie sur le continent. Plus d'1,3 million de cas de Covid-19 et près de 40 000 décès au 22 janvier. Actuellement, le pays fait face à une deuxième vague d'infection provoquée par une nouvelle variante du virus. Le 19 janvier, le gouvernement sud-africain a déclaré qu'un comité national superviserait le déploiement du vaccin dans les secteurs publics et privés. Mais il n'a pas précisé à quelle date ce déploiement commencerait, ni comment la logistique de distribution et de stockage serait gérée, ni identifié les entreprises privées qui seraient impliquées dans ce processus. Avec un système de santé publique surchargé, bien avant le début de la pandémie, les experts estiment qu'une campagne de vaccination efficace va nécessiter une importante coordination avec le secteur privé. Lisette Kruger est gestionnaire nationale pour les pharmacies d'Ischem.
Nous avons 4 grands entrepôts frigorifiés. Nous avons également des livreurs et des camions frigorifiés pour ne pas rompre la chaîne du froid et transférer les vaccins vers les lieux où ils seront administrés. Nous avons même la possibilité de louer davantage d'entrepôts frigorifiés si nous obtenions plus de vaccins. Nous sommes aussi en mesure d'étendre la distribution, d'étendre le temps de conservation du vaccin et d'étendre l'administration du vaccin.
La plus grande chaîne de pharmacies d'Afrique du Sud, Clix, fait partie des entreprises qui proposent leur réseau pour faciliter la distribution des vaccins, mais a déclaré qu'elle attend pour l'instant les directives du gouvernement. D'autres comme ShopRite, le plus grand détaillant sud-africain, et Minerals Council, un organisme représentant le secteur minier, ont déclaré être prêts à soutenir le déploiement du vaccin. Selon les experts de la santé, cet engouement est très encourageant, mais il faudrait tout de même que le gouvernement établisse un plan détaillé afin d'éviter tout retard dans la distribution des vaccins.
Voilà, merci beaucoup Dili. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, Dr Marie Mbaga, spécialiste en santé publique, et à Dakar, Dr Martin Ndiaye, médecin spécialiste en santé publique. Docteur Mbaga, plusieurs pays ont imposé des mesures de restriction assez drastiques, mais on sent une certaine fatigue de la population, que ce soit ici, en Europe ou en Afrique, partout. Est-ce que le confinement est aujourd'hui la solution pour vous?
En tant que professionnel, je reste convaincu qu'il n'y a pas une méthode unique qui serait la solution. S'il y en avait une, on aurait déjà trouvé. Ça va faire bientôt un an que nous sommes embourbés dans cette situation. Je pense que le relâchement a été à tous les niveaux, au niveau des autorités sanitaires et aussi peut-être politiques, mais également au niveau des populations. Parce que vous conviendrez avec moi que le jour où on dit qu'il n'y a plus de parking à payer ou je ne sais plus d'amende pour excès de vitesse, volontiers les gens vont accélérer parce qu'on ne le contrôle plus. Donc je pense que le relâchement n'est pas d'accord. Au niveau de la population, c'est au niveau d'accord. Général. Et pour finir, je pense que la deuxième ou la troisième vague, je pense au niveau de l'Afrique, n'est pas due peut-être aujourd'hui à une nouvelle variante comme en Afrique du Sud, mais c'est dû justement à ce relâchement global où les gens pensent que le Covid est fini, ou alors qu'ils ont atteint ce que nous appelons immunité collective, parce qu'on l'entend aussi beaucoup, on a atteint l'immunité collective et ainsi de suite. C'est là où la communication en santé doit avoir tout un sens et que les professionnels de la santé publique surtout doivent organiser cette communication communautaire pour dire aux populations que c'est pas fini. On n'a pas encore atteint dans certains pays cette immunité collective et quand bien même, il faudrait toujours individuellement se protéger. Ça incombe aux populations, mais également aux gens qui sont censés contrôler si ces mesures barrières sont mises en œuvre.
Pour terminer, quelles sont peut-être les conditions pour un retour à la normale et peut-être toucher un mot sur le rôle de l'OMS dans ce retour global à la normale. Je démarre avec vous, Dr Ndiaye, et on termine par Dr Mbaga.
Donc, vous savez, depuis le 30 janvier, quand l'OMS a déclaré que la COVID est une urgence de santé publique de portée internationale, les pays ont été accompagnés pour élaborer des plans de préparation et de riposte. Ce sont des plans qui ont été mis en œuvre. Et à un certain moment, il y a eu un réel espoir parce qu'il y avait une tendance à la baisse. Mais malheureusement, nous avons constaté une seconde vague. Bon, donc, l'espoir actuellement, c'est sur les vaccins. Et donc, on en a parlé. L'OMS est le chef de file des partenaires techniques et financiers dans tout ce qui concerne les efforts quand même qui sont en train d'être menés. L'espoir maintenant, vraiment, c'est la vaccination. En attendant, de part et d'autre, les pays sont aidés aussi pour faire en sorte qu'ils soient résilients. À défaut de pouvoir carrément stopper l'épidémie, qu'on puisse au moins la ralentir afin que l'impact ne soit pas trop grand et que notre système de santé puisse être impacté négativement à tel point que d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec la COVID ne puissent plus être prises en charge et que notre système de santé soit dépassé. Donc on a cet objectif de résilience et Inch'Allah peut-être vraiment faire tout pour avoir ces vaccins et je pense que c'est l'espoir à court terme.
Docteur Mbaga, vous avez le mot de la fin.
Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe dont les conditions ne vont pas être uniques. Mais il faut dire que la résilience et dont a fait montre la communauté sanitaire mondiale et tous les pays du monde est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, l'homme est connu pour sa grande capacité à la résilience. Je pense que il y a des indicateurs qui nous montrent que nous sommes sur la bonne direction. Il y avait quelques bonnes décisions politiques et surtout le respect de certaines règles. Cela impose que les individus soient déjà aware de leur rôle et leur importance au niveau de cette pyramide qui va nous permettre de sortir de cette pandémie. Donc les individus doivent respecter les mesures de distanciation sociale édictées par leur gouvernement respectif, porter un masque pour se protéger soi-même et protéger les autres. Et au niveau des politiques, il faut que chez les pays, et je pense que c'est là où l'Afrique n'a pas encore vraiment commencé à agir, c'est-à-dire avoir des policies qui font de la COVID une urgence sanitaire au niveau des pays et faire en sorte que ces politiques soient implémentées à tous les niveaux de la chaîne de santé publique. Et enfin, au niveau global, pour finir avec l'OMS. L'OMS est cet organe de coordination et je suis contente que le nouveau exécutif au niveau des États-Unis ait rejoint cette organisation. Ça lui donne aussi sa posture de coordination de la santé mondiale et aussi sa crédibilité. Je pense que l'OMS est en train et continuera et doit continuer à jouer un rôle central, y compris en Afrique, pour rassurer les populations, mais aussi donner cet appui technique que parfois les pays africains n'ont pas pour entériner les policies telles que la vaccination et autres qui permettront finalement de sortir de cette pandémie. Et nous, les professionnels de santé publique, nous avons bon espoir que les mesures de distanciation sociale, les politiques de santé anti-COVID et la vaccination qui est là permettra résolument que cette année 2021 soit la bonne pour gérer cette épidémie et la contrôler.
Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci beaucoup à mes invités et à vous qui nous avez suivis sur voafrique.com et à travers nos télépartenaires sur le continent, sans oublier toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.